France Inter, le 18-20.
Des sacrifices, des persécutions, des croisades, des guerres saintes, les religions de tout temps ont été à l'origine de nombreuses violences. Qu'elles en aient été la véritable cause ou le prétexte, elles sont au cœur de l'histoire des hommes auxquels elles n'ont pas précisément apporté la paix, alors même qu'elles sont censées les apaiser, les rassurer. Ce n'est pas tant le message d'ailleurs qui est en cause que la façon dont il est reçu ou interprété. C'est ce dont nous allons débattre ce soir. Les religions sont-elles source de conflits? Vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr ou sur Twitter, hashtag Telson.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Premier auditeur à nous appeler, Bruno, qui nous appelle de l'Isère. Bonsoir Bruno, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir, bonsoir France Inter, bonsoir à l'équipe et merci pour la qualité de vos émissions.
Merci.
Et merci de prendre ma question. Donc ma question est la suivante. Je voudrais savoir si réellement ce sont les religions qui sont à l'origine des conflits ou plutôt les adeptes qui se servent de la religion pour porter le conflit, satisfaire des égos et voilà.
Et oui, évidemment. Bonne question. Pour vous répondre, Claude Agège, linguiste, professeur au Collège de France, qui publie Les religions, la parole et la violence aux éditions Odile Jacob. Et puis Jean-Louis Schlegel, qui nous a rejoint, sociologue des religions, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, auteur d'un livre intitulé, notamment il y a quelques années, La loi de Dieu contre la liberté des hommes, intégrisme et fondamentalisme. Merci de nous avoir rejoint, Jean-Louis Schlegel. Merci. Je vais vous laisser la parole pour répondre à Bruno.
Je peux commencer, puis vous continuerez. Les religions sont des masses immenses. Hein. Il faut peut-être commencer par là, plus ou moins structurées. Effectivement, ce sont peut-être des masses qu'on peut manipuler, qu'on peut, comme on dit, instrumentaliser. Alors, bon, la principale instrumentalisation au cours de l'histoire a toujours été une instrumentalisation politique. Et je pense que ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire, dès qu'il y a une possibilité pour les pouvoirs politiques d'instrumentaliser en leur faveur des religions, des masses religieuses, ils ne vont pas se gêner, bien entendu, parce que c'est un apport important. C'est un apport, au fond, on voit bien, affectif aussi, que les religions peuvent apporter à des pouvoirs politiques éventuellement en difficulté ou désireux de s'imposer. L'inverse est vrai aussi, hein, c'est que...
Les religions se sont aussi appuyées sur les pouvoirs politiques.
Exactement, toujours tentées d'utiliser le pouvoir politique pour leurs propres fins.
C'est d'ailleurs ce que vous écrivez, Claude Agège. Les religions souvent alliées au pouvoir.
Oui, je dirais pour répondre à... Comment s'appelle ? Quel est son prénom ?
À Bruno.
À Bruno. Sa question est intéressante, mais je dirais qu'il y a de quoi à la fois le rassurer et l'inquiéter davantage. C'est que il semble dire que ce sont plus ceux qui représentent les religions et qui profèrent des paroles de prédication ou des œuvres écrites que les religions elles-mêmes qui sont porteuses de guerre. Je regrette, cher Bruno, ce n'est pas complètement vrai. Les religions, si l'on se donne la peine de regarder les textes de façon attentive, contiennent elles-mêmes des proclamations belliqueuses. C'est le cas d'une bonne partie de la Bible, pas les livres prophétiques, pas les livres poétiques, mais les livres historiques. Et c'est le cas du Coran, dans lequel on trouve à la fois des sourates iréniques, tout à fait iréniques, et d'autres qui sont guerrières. C'est le cas, mais c'est le cas également du judaïsme, donc du christianisme, de l'islam. En revanche, ce que je trouve un petit peu fâcheux, c'est que quand on dit les religions, surtout ici en Occident, on oublie tout le temps qu'il n'y a pas que les trois monothéismes. Il y a aussi les grandes religions de l'Extrême-Orient, l'Orient proche et lointain, c'est-à-dire le bouddhisme, le shintoïsme, confucianisme,
justement, je vous arrête,
etc. Et rien de ce que vous avez dit ne s'applique à ces religions. Elles ne sont pas du tout belliqueuses, elles ne sont pas du tout fondées sur des textes qui appellent à la guerre.
Je vous arrête parce que c'est justement le sens de la question de Bernard qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir, bonsoir à vous tous et bien sûr merci pour vos émissions. Ben voilà, ma question est très simple. Est-ce que des guerres de religion existaient avant l'invention des trois monothéismes?
Voilà, Claude Agège, vous venez d'y répondre en quelque sorte. Et Jean-Louis Schlegel, vous êtes d'accord avec ça?
Non, pas tout à fait. Moi, je pense que les religions d'Asie ont été elles aussi instrumentalisées par les pouvoirs politiques. Par exemple, aujourd'hui, après tout, en Birmanie, il y a une petite minorité musulmane qui est gravement persécutée par des bouddhistes, hein, par des bouddhistes birmans extrémistes.
Est-ce que ça vient du pouvoir politique?
Des fanatiques, hein, des fanatiques bouddhistes, ça existe.
Il n'y a pas de guerre que je sache en Birmanie. Le gouvernement
en scellant C'est-à-dire, dès que les religions ont un rapport fort aux nations, c'est ça. Alors, dès que le nationalisme s'empare d'elles, à Ceylan aussi, je crois qu'il y a eu une minorité bouddhiste, enfin, ou des bouddhistes qui voulaient s'affirmer et qui ont utilisé le terrorisme.
La minorité musulmane du sud de la Thaïlande, ainsi que celle de Mindanao, au sud des Philippines, est pourchassée en effet, mais il n'y a aucune comparaison, aucune commune mesure entre ceux dont elle est victime et les immenses guerres de religion qui ont déchiré l'Occident.
C'est vrai.
Alors les religions ne sont ni intrinsèquement violentes, ni intrinsèquement pacifiques, on en a dit un mot tout à l'heure, Claude Agege.
Enfin, Yoshua Nazareth, que je n'appelle jamais autrement que comme on l'appelait ses contemporains, je l'appelle Yoshua Nazareth, c'était son nom autrefois, dit quand même quelque chose d'important, très souvent cité, surtout dans Luc, je crois que Marc le cite, mais moins explicitement, « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais le glaive. Celui qui voudra me suivre aura la vie éternelle, celui qui ne me suivra pas, celui qui aimera son frère, son cousin ou sa mère plus que moi aura le grave problème. » Par conséquent, les paroles de Yeshua de Nazareth, soi-disant pacifiques et iréniques, ne le sont pas toujours du tout.
Celle-ci est violente. Jean-Luc Lagel. On cite toujours ces phrases, mais tout de même, moi, il me semble, ce n'est pas uniquement moi qui le dis, je pense quand même que dans le christianisme, le fondateur est globalement un pacifique. Je ne dirais pas un pacifiste.
Globalement, c'est vrai qu'il l'est.
Un pacifique, hein, peut-être, contrairement peut-être à d'autres fondateurs, non, pas Bouddha justement, en effet. En revanche, le problème du christianisme, si on peut dire, c'est toute l'histoire ultérieure, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'Église, et on s'est souvent demandé, mais comment se fait-il qu'avec un tel fondateur, le christianisme ait pu être un tel fauteur
la raison est très simple,
de violence
c'est
au cours de l'histoire.
Au lieu de rester dans les brisées de ce que Jésus, de ce que Yoshua de Nazareth proposait de généreux, d'humain, eh bien, c'est devenu un corps institutionnalisé avec un territoire, qu'aujourd'hui réduit à la portion conclue, mais qui est très longtemps, les états d'église ont été un véritable territoire, s'alliant aux pouvoirs établis, prêchant les croisades, etc., c'est-à-dire très fortement inséré dans le siècle, ce qui n'avait rien à voir avec la prédication de Yoshua de Nazareth.
Malgré tout, je reviens aux contradictions contenues souvent dans les textes religieux. Il y a des passages, par exemple, qui légitiment le terrorisme vis-à-vis des infidèles et d'autres qui demandent de faire de la non-violence un principe. On trouve ça dans le Coran, par exemple. On trouve ça aussi, évidemment, dans la Bible.
Le Coran contient des sourates mécoises et des sourates médinoises. Tant que le prophète est resté à la Mecque, il n'était pas pourchassé, qu'il était au début de sa prédication suivi par un grand nombre de gens, il n'y a pas eu, les sourates qui correspondent sont plutôt pacifiques. À partir du moment 622, qui s'appelle la Hijra, c'est-à-dire l'émigration, c'est le début de l'islam. L'islam n'a pas commencé avec sa prédication, il a commencé officiellement pour les musulmans au moment où il a quitté la Mecque pour ce qui s'appelait à l'époque Yathrib et qui s'appelle Médine aujourd'hui. Eh bien, à ce moment-là, pourchassé par ses ennemis, il a évidemment eu par obligation, je ne sais pas si c'est par choix ou par goût, une attitude guerrière. Et la Sira, c'est-à-dire sa biographie, raconte que Dieu lui avait plus ou moins conseillé d'avoir une attitude polémique, mais au début, ce n'était pas le cas. C'est la raison pour laquelle, dans le Coran, on trouve, comme dans d'autres textes religieux, positions contradictoires. Il y a aussi bien des positions iréniques que d'autres qui sont très guerrières.
Oui, Jean-Luc Lagel.
Donc, juste dire une chose. Quand on évoque comme ça les versets durs du Coran, de la Bible, même de l'Évangile, là on a cité deux, on imagine toujours que tous les lecteurs sont fondamentalistes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tous ces versets en quelque sorte à la lettre. Moi je croirais beaucoup plus, si vous voulez, que le musulman moyen, le croyant moyen, ce n'est pas du tout comme ça qu'il lit ses textes fondateurs, c'est-à-dire il fait son tri lui-même, il y a quand même une espèce de sagesse des populations. Ce que je crois plutôt, c'est qu'effectivement, à certains moments, il y a une violence dans les groupes religieux. Je ne suis pas sûr que ces versets les plus violents, les récits de la guerre, soient vraiment ce qui passionne les foules, quoi.
J'aimerais vous croire, mais votre optimisme...
Je rejoins assez quand même l'opinion d'Olivier Roy là-dessus. Il dit tous les musulmans ne se promènent pas avec un logiciel coranique violent dans la tête, quoi. Hein, voilà. Le simple musulman, le simple croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vivre tous les jours, il veut faire des enfants, il veut les élever au mieux, il veut trouver du boulot, il veut prier. Il a les besoins de tout le monde, quoi. Mais alors, parce qu'on fait un peu un raisonnement comme s'il était obsédé lui-même en permanence par ses récits.
En rappelant, et vous le faites dans votre livre...
Le même Olivier Roy, pourtant, parle de l'islamisation de la violence. Hein, c'est aussi lui qui dit ça.
Claude Agege, vous le dites dans votre livre que la première philosophie dans l'histoire de l'islam, qui correspondait à l'âge d'or espagnol, était fondée sur la raison, justement.
Parce qu'évidemment, l'islam a eu de très grands personnages qui avaient une immense sagesse. Ils ont épousé les philosophies et les sagesses locales. Ils ont été également, comme vous savez, les vecteurs d'Aristote et de la philosophie grecque. C'est par eux, c'est par leur traduction que l'Occident, qui était plongé d'une certaine façon en barbarie, quand l'islam était au contraire au zénith de sa gloire et de son prestige, surtout dans l'Espagne musulmane, a connu donc la philosophie antique. Cela dit, il s'adaptait aux conditions locales et il, moyennant les limmas, c'est-à-dire les impôts imposés aux infidèles, dont on ne requérait pas une conversion forcée, il y a eu en effet une époque très brillante qui a été pour l'Occident une époque modèle. Ce sont en gros les premiers siècles des Abbassides, la dynastie qui a succédé aux Omeyyades, c'est-à-dire du 8e au 11e.
Oui, je vous rejoins bien. Simplement, il semblerait que ce qui a fini par dominer assez rapidement l'islam, ce sont les écoles juridiques. C'est-à-dire, en fait, de tout l'islam, au fond, aurait pu être lui aussi une doctrine spirituelle, voyez, enfin avant tout quelque chose dont le croyant se nourrit pour sa vie croyante, etc., pour son espérance. Mais on a l'impression que très très vite, enfin non seulement on a l'impression, mais un certain nombre d'historiens de l'islam regrettent que ce soit devenu avant tout une loi, une charia, effectivement excluant ceux qui ne pensent pas la même chose.
France Inter, le 18-20, le téléphone sonne.
Bonsoir Frédéric, vous nous appelez de Pau, je crois.
Tout à fait, bonsoir à tous, bonsoir à nos intervenants et aux auditeurs.
Nous vous écoutons.
Quand j'ai lu le thème, j'ai cru à une plaisanterie, disant que les religions provoquent des conflits, il suffit de regarder l'histoire pour voir que oui. Dans la mesure où la foi n'est pas une opinion laquelle peut se discuter, mais une croyance qui tient de l'irrationnel, dans la mesure où la foi est associée également à des dogmes qui véhiculent de l'absolu, quand elle s'associe en plus à une prétention au sacré, et quand on sait que les religions sont forcément concurrentes entre elles, eh bien on ne voit pas comment elles ne pourraient provoquer des conflits. Voilà, ce serait ma question. Pourquoi peut-on penser que les religions ne vont pas provoquer de conflits?
Eh bien, Frédéric, très bonne question, excellente. La réponse est que vous avez entièrement raison. Elles sont, de manière intrinsèque, productrices de conflits.
Alors, une encyclopédie des guerres publiée en 2007 par deux chercheurs américains avait conclu que seuls 7% des guerres de l'histoire mondiale étaient vraiment motivées par la religion, qu'en fait la plupart des guerres avaient été ensuite récupérées par les religieux. On peut citer le conflit israélo-palestinien, par exemple, qui est un problème de territoire à l'origine.
C'est déjà énorme qu'en pourcentage.
7%.
Mais c'est déjà énorme, parce que les religions, en principe, n'ont pas cette vocation-là. Elles ont vocation de paix et d'union, et de réponse aux angoisses humaines sur les deux grands problèmes de l'humanité, à savoir l'inconnaissable, les lois de l'univers que nous ne connaissons pas, malgré les progrès admirables de la science, et deuxièmement, l'existence du mal. Ce sont les deux angoisses, détresses humaines auxquelles répondent les religions. Je dirais, pour aller dans le même sens, il s'appelle Thomas, c'est ça ?
Frédéric.
Frédéric, je trouve sa question excellente, que les religions, en effet, font appel à l'irrationnel, à une soif de transcendance, à des choses totalement incroyables. Ni la naissance d'une vierge, pour prendre le christianisme, ni la nature divine, ni la résurrection ne sont autre chose que des défis, un défi frontal à la plus élémentaire connaissance scientifique, à la plus élémentaire sagesse. C'est totalement
raison.
Faux et fou. Par conséquent, les trois, naître d'une vierge, être d'essence divine et ressusciter, sont des choses qui ne peuvent faire appel, précisément, qu'à l'irrationnel, qu'à la foi. Et je dis dans mon chapitre que j'ai intitulé « Le christianisme difficile et pourtant universel », que le besoin de foi, d'irrationnel, le goût pour la transcendance, sont les raisons qui font que, loin que ces trois incongruités, ces trois défis absolument, un défi frontal à la raison, et empêcher les gens de se convertir au christianisme, ça les a plutôt encouragés.
Donc il faut lier définitivement la violence et le sacré, le fanatisme et la religion.
Non, moi je ne partage pas cette opinion du tout. Même je ne pense pas du tout que les religions sont en soi irrationnelles. Les religions, effectivement, sont sur un autre registre que la philosophie. Ce ne sont pas des concepts. Les religions racontent une histoire. Il y a une mythologie, mais absolument. Mais effectivement, les religions aussi. Ne sont pas des sages, ne sont pas faites de gens sages, de philosophes, effectivement, qui manient la raison. Les religions, ce sont des foules immenses. Je dirais même, peut-être par certains côtés, les religions, ce sont des foules immenses de pauvres, encore aujourd'hui, de pauvres, effectivement, de pauvres en ressources matérielles, et éventuellement de pauvres en ressources spirituelles. Et les pauvres en ressources spirituelles, ils peuvent même se trouver très nombreux dans notre société. Parce que comment expliquer, sinon, que ceux qui traitent la religion d'irrationnel, comment est-ce qu'ils expliquent que dans des univers comme le nôtre, archi enseignés, archi éduqués, qui sont passés par tous les stades de la raison scientifique, comment se fait-il qu'il y a encore tant d'irrationnels qui croient quelque chose, et même des catholiques qui adorent la Sainte Vierge, mettons. Je trouve que c'est quand même ces questions-là qu'il faudrait expliquer. Apparemment, La rationalité ne boucle pas tant que ça. Apparemment, la rationalité dont, effectivement, au 19e, nos braves positivistes, nos braves scientifiques, espéraient qu'elles allaient définitivement supplanter les mythes religieux et toutes ces croyances irrationnelles. Bah, apparemment, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Mes confrères en sociologie parlent plutôt aujourd'hui presque de désécularisation. C'est-à-dire, ils se rendent compte que la modernité, la modernité technique en tout cas, alors qu'il n'est peut-être pas toujours la modernité rationnelle, je veux bien vous l'accorder, mais la modernité technique provoque apparemment des choses absolument contraires à ce qu'on pouvait espérer depuis longtemps, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable qu'on puisse presque, on parle de retour du religieux, mais on n'est même pas devant un retour. On est devant, à part l'Europe qui est effectivement dans une pente qui continue à se séculariser, et encore, les cinq autres continents ne sont pas du tout dans cette pente-là. Alors, il faut quand même aussi savoir ce qu'on dit.
Bon, il ne faut pas, non plus être aveugle devant la façon dont les progrès de la connaissance se font de façon gigantesque. Notre Terre, elle est menacée par un réchauffement irréversible. C'est la seconde loi de la thermodynamique découverte par Carnot, le fils du grand Lazare Carnot, le révolutionnaire conventionnel. Bon, nous en sommes certains maintenant. Ceci a été appelé par Clausius entropie. Et l'entropie, c'est donc ce phénomène qui fait que dans tant de milliards d'années, un peu comme dans 5 milliards d'années, le Soleil lui-même va devenir une boule de glace et par conséquent cesser de permettre la vie sur Terre, la vie ne sera plus possible à suivre. C'est pourquoi j'étais intéressé par ce qu'a dit votre collègue tout à l'heure sur la découverte d'hydrogène sur une planète
dans le journal de 19h, oui.
De Vénus. Bon, évidemment, le génie humain, l'esprit humain est capable de découvrir probablement des parades. S'il fallait avoir une religion, mais ce n'en est pas une, vous avez raison de dénoncer le scientisme du XIXe siècle, ça serait celle de la science. Seule et digne, je dirais pas de foi, mais d'intérêt et d'investissement puissant et passionné de recherche, la recherche scientifique, c'est-à-dire l'effort, non pas à travers des mythes et des choses incroyables sur le plan scientifique, l'effort pour élucider les lois de l'univers, pour connaître l'évolution, pour connaître ses sources. C'est ça qui est digne, bien qu'encore une fois, ce ne soit pas une religion et que ça n'ait aucun intérêt à en prendre les habits. C'est ça qui est digne d'un investissement de passion. En revanche, les religions, il est vrai que vous avez entièrement raison de rappeler que énormément de gens qui les représentent sont des masses misérables. Néanmoins, il y a la pauvre cardinaliste, il y a l'extrême luxe de l'Église, l'Église qui, en or, en platine et en diamant, est de loin le plus riche propriétaire du monde. Ceci n'est pas très favorable à une foi en amélioration de pauvreté.
Écoutez, je pense quand même que le propriétaire de Facebook et tous les autres sont bien plus riches que l'Église. Mais
en tout cas, ils sont tous très riches.
Vous faisiez la différence tout à l'heure, Claude Allègre, entre les trois monothéismes et les philosophies orientales.
La raison de la richesse de l'Église est très simple, d'ailleurs. Je pense qu'elle est supérieure à celle que vous citez. C'est parce que la foi des gens leur fait investir par testament quand ils vont mourir, quand ils sont très croyants, ou quand ils sont vivants, des sommes gigantesques.
Vous rentrer dans les détails, mais simplement, si vous voulez, par exemple, la menace principale, je me permets de renvoyer exceptionnellement à notre dernier numéro d'Esprit de mars avril sur le problème technique, où tout simplement, ils expliquent que nous avons créé la technique avec toute notre intelligence, toute notre rationalité scientifique, et en même temps, nous n'arrivons pas à la dominer. Elle nous domine. Alors c'est quand même incroyable qu'on en arrive à cette espèce d'irrationalité.
La recherche de science de pointe n'est d'une.
Nous allons écouter François qui nous appelle de Lyon. Bonsoir François.
Oui bonsoir. Je suis un peu surpris de du peu de connaissances sur le bouddhisme en matière de guerre. Le bouddhisme, comme les autres religions, a connu une période de guerre, de guerre de religion, inquisition, moines soldats, tout comme les autres religions. Hein.
Donc, je ne vois pas du tout que c'est ça. Le bouddhisme, c'est pas comparable en rien aux croisades ou aux guerres de religion qui ont déchiré la France du XVIe siècle. Aucune comparaison n'est possible.
Religion, il y a eu des croisades exactement comme les autres guerres. Vous pouvez demander par exemple au spécialiste du bouddhisme en France, Denis Girard, qui donne tout un tas de précisions là-dessus. La partie que zen que l'on connaît en France aujourd'hui, c'est une lente évolution de ce qui est en Asie et donc une évolution tout à fait favorable, un peu comme l'Église catholique qui aujourd'hui, pour être catholique, d'après les dernières encycliques, il faut être de gauche, écologiste, et enfin voilà. C'est un peu une évolution.
N'exagérons rien. Hein. Enfin, je crois que pour l'instant, les catholiques de droite se portent très très bien.
Je ne connais aucun texte qui justifie ce que vous dites et dans lequel on puisse lire des conflits sanglants comme ceux de l'Occident suscités en milieu bouddhiste. Je ne connais aucun texte de ce type.
Nancy, qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Nancy.
Oui, bonsoir. bonsoir. Je vous appelle parce que moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un peuple sans religion ? Sinon, est-ce que c'est pas ça l'essence de l'homme ? Enfin, je veux dire pas la croyance, hein, mais la création de la croyance. Parce que les animaux, ils n'en ont pas. Ils rient, ils ont du langage, tout ça, mais créer cette croyance-là ou créer un tableau, enfin, cette espèce de... Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, et ça pose ça vous pose un problème que l'homme ait eu besoin de transcendance ?
Ben, pour moi, enfin, ma question, c'est est-ce que c'est pas tout simplement ça qu'il définit ? C'est-à-dire cette espèce de marche qui lui manque, et donc il essaye toujours de grimper cette marche. Alors, il va devenir chercheur, il va devenir Picasso, il va devenir un prêtre, mais pour moi, c'est cette création, c'est la même partout. C'est-à-dire, il me manque quelque chose, je vais créer Dieu.
J'aime beaucoup la remarque de cette dame.
La croyance est le propre de l'homme.
Merci, chère madame. J'aime beaucoup votre remarque parce que ça se résolve sous la forme de la recherche scientifique ou de la foi religieuse, on a affaire ici à quelque chose de capital. Nous sommes une espèce animale, mais nous sommes la seule espèce animale qui est inquiétée par la mort, qui est inquiétée par l'au-delà, qui est inquiétée par notre destinée. Et nos sépultures, nos modes de célébration des morts, etc., montrent bien que sur ce plan, nous nous distinguons fondamentalement. Donc je suis d'accord à 100%, chère madame, avec ce que vous dites.
Jean-Louis Schlegel.
Oui, effectivement, la vie humaine pose une question. Même si des tas de gens se posent peut-être aujourd'hui, surtout en régime de sécularisation et de modernité, relativement peu de questions sur leur vie, c'est-à-dire ils acceptent en quelque sorte leur destin fini, on n'a qu'une vie et puis on meurt un jour. Il y a un peu de fatalisme aussi dans ça, mais c'est vrai que un certain nombre de gens ne se résolvent pas ça, et donc la question de la mort et donc d'une vie après la mort est quelque chose de fondamental. Mais au-delà de la mort, il faut quand même dire, nous vivons un cycle de vie qui nous mène aussi vers une vieillesse. Nous avons de la souffrance. Il y a la souffrance, la mienne, la souffrance des autres, la mort des autres. Tout cela pose à l'homme, aux hommes, des questions fondamentales, en effet, qui deviennent religion.
Permettez-moi d'accrocher, parce que parmi les choses qu'a dit M. Schlegel, c'est
oui,
ça
Schlegel, oui.
Le nom de deux célèbres linguistes allemands, les frères Schlegel.
Les frères Schlegel,
fondateur de la linguistique.
Absolument.
Je suis linguiste. Là,
les parenthèses de Claude Agel.
Parmi ce qu'a dit M. Schlegel.
Non, mais on vous connaît, monsieur. Je vous connais.
Merci.
Je sais que vous êtes un grand linguiste.
Schlegel, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est son expression « la vie après la mort ». Eh bien, à ma connaissance, peut-être que l'auditeur qui a parlé du bouddhisme me contredira, c'est une promesse propre aux grandes religions monothéistes de l'Occident. On ne promet absolument aucune vie après la mort dans les philosophies de l'Extrême-Orient. Pourquoi ? Et parce que
une réincarnation. Il y a la réincarnation
dans l'au-delà, dans l'ici-bas, je veux dire, qu'il faut faire un effort pour rendre la vie abritée des trois misères de l'humanité, la maladie, la vieillesse et la mort. Mais quant à promettre, l'islam aussi le fait fortement, sous la forme de menace à ceux qui sont des mécréants ou qui n'auront pas appliqué la religion, quant à promettre une vie éternelle comme compensation aux misères d'ici-bas, ceci est une caractéristique typique des religions de l'Occident, pas de l'Extrême-Orient.
Alors le débat porte quand même sur la violence. La religion est-elle source de conflits ? Vous parliez tout à l'heure, Jean-Louis Schlegel, de la sécularisation grandissante des sociétés occidentales qui s'éloignent de plus en plus, finalement, c'est presque contradictoire.
Sécularisation immense jusqu'à un temps relativement récent et en même temps, contestation.
Voilà. Elle s'éloigne des lois et des mœurs, des dogmes de l'Église de plus en plus. L'IVG, le divorce, l'homosexualité. Est-ce que c'est pas ça qui implique, à contrario, une crispation justement des traditionalistes qui, eux, demandent un retour à l'ordre moral? Ça leur fait peur un petit peu.
Oui, bien sûr, c'est une des thèses sociologiques majeures. Si vous voulez, on peut interpréter la violence des religions aujourd'hui comme une sorte de réponse à la menace qu'elles ressentent. C'est-à-dire la menace de disparaître, d'être extrêmement contestée par nos temps modernes, partout, par les sciences, par la technique, par la raison. Par les modes de vie, tout simplement. C'est-à-dire, nous vivons beaucoup mieux que nos ancêtres dans nos sociétés de consommation. Et à la limite, la vie que nous avons nous suffit. Nous n'avons pas besoin de résoudre encore des problèmes supplémentaires. Mais effectivement, cette menace de dissolution, de disparition, pourrait expliquer peut-être une partie une partie en particulier de la difficulté de l'islam, c'est-à-dire cette forme d'implosion de l'islam à laquelle nous assistons aussi en ce moment. C'est-à-dire, se sentent menacés par l'islam. Mais on pourrait aussi interpréter dans un autre sens ce qui se passe comme presque une sorte de réaction désespérée, pas de tout l'islam, de certains musulmans qui effectivement se dresse là contre et à la limite emploie une violence folle, une violence, comme on dit parfois, apocalyptique. Parce que ça, c'est un autre aspect de ces religions monothéistes, hein, vous l'avez sans doute dit peut-être déjà, c'est le côté, cette impression qu'on est à la fin, qu'on est à la fin des temps, qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de nous, et au fond, ils n'ont qu'une intervention, qu'une envie, c'est peut-être que Dieu intervienne pour résoudre les problèmes. Quoi. Oui. Alors, comme il n'intervient pas, ils se décident à le résoudre eux-mêmes.
On a toujours vu ça. Luther le croyait, il pensait même que ça serait en 1625, il avait donné une date précise. Bien entendu, il n'y a pas eu la moindre consécration de ses croyances. En revanche, dans ce que vous avez dit, cher Père Schlegel, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que, au fond, l'islam rend un immense service au christianisme dans l'Occident. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société déchristianisée. Mais ce qui rend service au christianisme, c'est que comme réponse aux excès, aux outrances de l'islam, il y a une re-christianisation qui se fait. Autrement dit, c'est une sorte de modèle. Et cette re-christianisation, inattendue, due finalement à l'islam indirectement favorable, ça n'est pas son but naturellement, eh bien, elle explique la situation actuelle de beaucoup de chrétiens en France.
Oui, vous avez raison, des chrétiens fondamentalistes le disent explicitement. Ils disent, en quelque sorte, regardez l'islam missionnaire, l'islam triomphateur, l'islam qui cherche à convertir beaucoup. Eh bien, il faut absolument faire une réponse adéquate. Et la réponse serait que nous aussi, nous redevenions...
Nous nous recrastinisions. Voilà. Mais il y a une raison à cette espèce d'offensive, de caractère offensif de l'islam. C'est le titre même de mon chapitre sur l'islam, il s'appelle l'islam la plus jeune des prophéties. La hijra, l'égir, date de 622. Une des raisons pour lesquelles le fondamentalisme a un terreau sur lequel il peut naître beaucoup plus facilement, c'est que c'est une religion très jeune. Oui. Le judaïsme, plus que tout, ce qui est très ancien, et même le christianisme, bien que moins ancien, ce sont de très vieilles religions. Par conséquent, une sorte de remotivation, de retour passionnel d'une foi conquérante, c'est quelque chose qui est bien moins concevable dans une très vieille religion.
En rappelant aussi que les pays d'islam sont peut-être confrontés à une domination politique, économique,
très
de l'Occident,
juste.
À un impérialisme occidental. C'est peut-être ça aussi. On se cache derrière la religion pour réagir.
C'est vrai.
C'est politique.
C'est la dimension politique. D'autre terme, l'islam, dans sa résurgence très forte, très violente, qui prend les formes souvent du terrorisme, pas uniquement, c'est aussi une revendication politique. Également, les musulmans ont été colonisés d'anticolonisation.
Ce qui s'exprime peut-être aussi dans nos salles de classe, c'est en tout cas ce que vous voyez, vous constatez. Jean-Pierre, dans votre métier, bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Vous êtes professeur, c'est ça ?
Je suis enseignant, effectivement, de SVT, et je voulais effectivement faire réagir vos intervenants sur cette question. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de conflits entre grandes nations, entre populations, mais on n'a pas parlé des conflits qui pouvaient être générés par la religion au sein des salles de classe. Et bon, j'enseigne une discipline qui est particulièrement soumise à cela, ce sont les SVT. Et donc voilà, j'aurais voulu avoir la réaction de vos intervenants sur ce
point. C'est-à-dire, il y a des conflits religieux autour des sciences et vie de la Terre.
Ben, c'est-à-dire que, en fait, il y a un conflit entre démarche scientifique et croyance. Je pense par exemple à l'enseignement de la théorie de l'évolution, hein, qui est au programme du secondaire.
Jean-Luc Schlegel.
Oui, effectivement, il y a ce conflit-là. Il y a des conflits sur certains enseignements de SVT du côté de la sexualité humaine, hein, du côté de l'enseignement éventuellement d'ailleurs de l'avortement, etc. Et il y a des réactions d'élèves qui ont plus d'une fois, bon, je le sais surtout pour le catholicisme, des familles derrière qui effectivement sont extrêmement gênées par cet enseignement. Alors il faut le reconnaître que, disons, dans le vaste domaine de la bioéthique et de la sexualité humaine, depuis 40 ans à peu près, toutes les sociétés européennes modernes, en général, ont établi des législations qui permettent, je ne dis pas permissives, mais des législations qui permettent, hein, qui permettent éventuellement l'interruption volontaire de grossesse, qui permettent des législations qui protègent, Dieu merci, les homosexuels, hein, ça n'a pas toujours été le cas, et des tas de choses de ce genre-là. Et en effet, ceci est mal vécu par un certain nombre de religions, dont l'Église catholique. Hein. L'Église catholique, en particulier sous le pape Jean-Paul II, a fait preuve, et elle fait toujours preuve aujourd'hui, globalement, d'une doctrine très, qu'on appelle rigoriste, c'est-à-dire sévère, sur des comportements qu'elle juge... d'une certaine manière aberrant, pécheur, hein, par rapport à une norme. Et disons, le dernier épisode de cela a été le mariage pour tous, où du côté de l'Église catholique, des théologiens, des anthropologues aussi d'ailleurs ont dit que le mariage pour tous, donc mariage entre homosexuels hommes, entre homosexuels femmes et les enfants, ça créait une rupture anthropologique, c'est-à-dire on sort de presque du cadre de l'histoire humaine et du côté anthropologique humain, qui, je résume les choses avec une simplicité absolue, hein, qu'une famille suppose une maman, un papa, pour avoir des enfants.
Bon, je dirais, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, je dirais, pour répondre à votre dernier interlocuteur, qui est professeur, que l'école n'a pas pour vocation plaider en faveur de ces doctrines. L'école a essentiellement pour vocation, elle est laïque, je ne parle pas des écoles religieuses.
Elle explique les faits religieux, elle raconte les faits religieux.
D'enseigner les faits,
oui.
La laïcité, qui est une des meilleures lois que tout le monde reconnaît, la fameuse loi de 1905, elle prône le respect des religions, et pas du tout l'agressivité contre elles, et l'harmonie entre elles. Mais la vocation de l'école n'est pas d'épouser les querelles des familles et des enfants qui reflètent celles de leur famille. On peut, le professeur de droit, d'ailleurs, je crois, je m'excuse de prendre ce temps sentencieux comme si j'avais dire au professeur ce qu'il doit faire.
Ce n'est pas ce que fait Jean-Pierre. Hein, ce n'est pas ce que fait Jean-Pierre, si j'ai bien compris. Il n'enseigne pas fait religieux.
Ce qu'il doit enseigner, mais je n'ai jamais dit qu'il enseigne ça. Je dis que ce qu'il doit enseigner, c'est la connaissance des faits religieux, mais en rien un encouragement au conflit. Les enfants vont à l'école, les parents les y envoient, pour recevoir un enseignement de connaissances, et non pas d'adhésion.
Oui, mais ils réagissent à ces connaissances.
Juste en une phrase pour répondre à notre interlocuteur, je pourrais dire, les valeurs de notre société se sont éloignées des valeurs de l'Église, ou des Églises et des religions. Et du coup, il y a un fossé grandissant de ce côté-là, même chez des Églises, comme l'Église catholique, malgré tout, qui officiellement acceptent la laïcité, hein, la séparation, etc. Malgré tout, cet écart de valeurs crée un conflit potentiel, oui.
Mais faut-il avoir obligatoirement une religion ?
Non, justement, on peut... Non, dans notre société, la liberté religieuse est fondamentale, et la liberté religieuse veut dire non seulement liberté de croire, mais liberté de ne pas croire, liberté de sortir d'une religion, liberté de se convertir, etc. Bien entendu.
Est-ce que moins de religion voudrait dire moins de violence ?
Ah, alors là, je n'en suis pas sûr du tout. C'est une question excellente, mais là, nous l'abordons à la fin de notre émission, mais c'est une question excellente.
J'ai un peu peur, contrairement à ce cher Schlegel, de devoir dire
Moi, je pense qu'il y a... je trouve quand même qu'il y a de très grandes violences au XXe siècle qui n'étaient peut-être pas dues...
Mais bien sûr, la religion, malheureusement, en est aussi une des causes.
Mais elles en étaient aussi une des causes, je veux bien.
Sinon, il y a bien d'autres causes, évidemment.
Jamil, qui nous appelle de Strasbourg. Bonsoir, Jamil.
Oui, bonsoir. Alors, avant de poser ma question, je voudrais juste dire que je suis docteur en islamologie contemporaine et je suis même en train de finir ma thèse de doctorat qui porte sur le conflit idéologique entre le salafisme et une confrérie soufie en Afrique au sud du Sahara. Et quand je vois le conflit qu'il y a entre ces deux et que j'entends des gens qui disent islam, 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 moi-même qui suis musulman pratiquant et docteur en islamologie, je n'arrive pas à définir l'islam. Du coup, l'islam, c'est un peu tout et le contraire de tout. Maintenant, ma question, c'est que l'un de vos interlocuteurs, j'ai l'impression qu'il oublie le fait que les textes ont été aussi portés par des hommes. Autrement dit, c'est que surtout le Coran a été révélé au 7e siècle dans un contexte où les alliances tribales prédominaient dans les relations entre les hommes. Et que, comme le montrent des historiens comme Rachid Benzine, qui a beaucoup travaillé sur le Coran, c'est qu'à cette époque, quand des alliances ne marchaient pas, en général, c'était les armes qui parlaient. Et que le Coran, justement, prend cette image. Maintenant, à mon avis, il faut faire appel à l'anthropologie et à l'histoire pour ne pas tomber dans des simplicités dans lesquelles j'ai l'impression que l'un de vos intervenants en tombe. Et l'exemple que je prends d'habitude, je finis là-dessus, c'est la Marseillaise. Et qu'on le sort de son contexte.
Merci, Jamil. La liaison est pas très bonne. Ce que vous dites est corroboré par Michel qui nous écrit par courriel et qui nous demande si l'incompatibilité de l'islam avec la République, de son point de vue, ne viendrait pas du fait justement que l'islam est né dans un monde tribal dont il a été un facteur essentiel d'unification.
Oui, mais je crois que les trois monothéismes, le judaïsme ancien, Mettons que Moïse a existé vers 1250, le judaïsme vers 1250 avant Jésus-Christ, au temps du Christ, et puis ensuite le 7e siècle pour l'islam, c'était toutes des sociétés traditionnelles, tribales en partie, en tout cas totalement imprégnées d'une histoire et de coutumes, de pratiques totalement différentes, avec des conceptions de l'homme, de la femme, de la vie, de la mort, etc., totalement différentes. Donc, mais effectivement, mais je vais tout à fait dans le sens du premier interlocuteur. Les religions devraient faire ce travail, elles le font, le judaïsme, le christianisme l'a fait. L'islam commence seulement à le faire, et c'est bien le problème.
La raison est très simple. L'islam n'a pas eu le temps de le faire. Oui, le christianisme et le judaïsme sont des religions qui ont été sécularisées. Ce qui manque à l'islam, si je peux me permettre, je n'ai pas le droit de dire ça, mais je me réclame d'intellectuels musulmans qui l'écrivent, que je cite dans mon bouquin, dont Ahmed Hadi, l'islam a besoin d'une sécularisation.
Oui.
Le prophète se réclame très souvent de pouvoir politique. Il y a une très célèbre sourate que je me permets de vous dire. Innal muluk lama dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu ahiza.
C'est le linguiste qui parle.
Adilatan. Lorsque c'est dans le Coran, je cite littéralement en arabe classique. Lorsque les rois ont conquis un territoire, ils asservissent toute sa population et ils le conquièrent, ils le dominent. C'est-à-dire que le prophète était parfaitement conscient, c'est dans le passage sur la reine de Saba, une sourate très célèbre dans l'islam. En d'autres termes, le prophète a été, le Coran a été très intimement lié au problème des pouvoirs établis politiques. Et il pénètre de façon profonde ces pouvoirs. C'est quelque chose dont le judaïsme et le christianisme ont eu des millénaires pour se défaire. Il faut laisser le temps à l'islam de se séculariser.
Non, juste une phrase, puisque notre interlocuteur est docteur sciences coraniques, qu'il fasse ce travail. Je ne peux que l'inviter à le faire, et puisqu'il m'interpelle, à propos de Rachid Benzine, je peux même lui dire que je suis son éditeur. Alors, je vais tout à fait dans son sens.
Merci, messieurs. Je crois qu'on sera d'accord pour dire que, en conclusion, que les religions ne sont pas forcément intrinsèquement violentes, mais que ce sont les hommes, finalement, qui, à travers elles, pratiquent la violence.
Les religions sont faites par les hommes.
Et exactement, mais on aurait pu citer Martin Luther King ou Gandhi qui ont puisé dans les religions leurs convictions morales et religieuses. Merci à vous, Claude Agege, linguiste, professeur au Collège de France. Je rappelle votre livre « Les religions, la parole et la violence » aux éditions Odile Jacob. Merci à vous, Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions. Et je renvoie à la rédaction vous êtes membre de la rédaction de la revue Esprit, 19h59.